Bonsoir, comment allez-vous? La reproduction des êtres vivants, pour dire les choses cuitement, tu dirais quoi toi Marjo pour le contraire de crûment? Donc la reproduction des êtres vivants est une préoccupation que nous percevons dans vos questions tombées sur le répondeur des petits bateaux. Au début du début, la reproduction se passait par division. Par exemple, une cellule se divise en deux, puis chacune des deux se divise à nouveau en deux, ça nous en fait déjà 7, et dans 5 minutes nous en aurons 1000. Et puis est apparue la reproduction sexuée, qu'on nous a racontée d'une façon plus ou moins scientifique ou plus ou moins romantique, et qu'à notre tour nous avons raconté à nos enfants. Le papa fournit une graine à la maman, qui la reçoit, la chauffe, la nourrit, la fait grandir, jusqu'à ce qu'elle se transforme en bébé capable de sortir du nid. Ça nous contentait bien. Les parents avaient le sentiment d'avoir fait le job et les enfants, qui regardaient depuis le CE2 des petits films pornographiques sur leur téléphone, rigolaient sous capote. Et puis, un jour, Françoise Héritier est venue au petit bateau et nous a juste rappelé que le mâle apportait une moitié de graines qui rencontrait une autre moitié de graines femelles cette fois. Les deux moitiés composaient la graine qui se transformait dans le ventre de la mère en bébé. Et voilà le travail. Le papa ne met pas la graine, mais la demi-graine, exactement comme la maman, qui, elle, rajoute le pot, l'arrosage et le soleil. C'est pourtant pas un scoop. Mais quand Françoise Héritier, de sa petite voix douce, nous a dit ça, ça nous a fait l'effet d'une révélation.
Je m'appelle Eva, j'ai 12 ans, et je voudrais savoir pourquoi les hommes se sont mis en tête que les femmes étaient inférieures à eux.
Je m'appelle Bérangère, j'ai 10 ans, et j'aimerais bien savoir pourquoi ce sont aux mamans de faire les tâches ménagères.
Françoise Héritier.
Nos ancêtres de cette grande, très haute préhistoire, il y a peut-être plus de 100 000 ans, voyaient le monde tel qu'il était avec ses régularités, disons le jour et la nuit, les saisons par exemple, tel qu'il est toujours. Mais ils n'avaient pas les moyens de comprendre pourquoi c'était comme cela. Alors quand ils se regardaient eux-mêmes et les animaux autour d'eux, eh bien ils voyaient qu'il y avait toujours deux sexes, mais seulement que seules les femelles mettaient au monde les enfants. On se demandait donc à l'époque à quoi donc servaient les mâles dans la reproduction si les femelles ou les femmes avaient la capacité de le faire toutes seules. Les humains, au cours de la préhistoire, ont élaboré une réponse à la question de savoir pourquoi les êtres masculins ne pouvaient pas mettre au monde directement dans leur corps leur propre fils, en répondant que la nature ou bien un dieu puissant leur avait donné le corps des femmes, pour cela, ils y mettaient les bébés, et qu'ainsi, ils étaient d'une certaine façon les possesseurs et les maîtres de ces corps de femmes, soit parce qu'ils en étaient les pères ou les frères, soit ensuite parce qu'ils en étaient les époux. Ce qui, naturellement, est un raisonnement faux, mais qui était fait au temps de la préhistoire, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du fait qu'il fallait à la fois des ovules et des spermatozoïdes, et qu'il fallait l'apport des deux sexes pour faire un bébé. Ils apportaient l'élan créatif. Apportaient la vie, même si ensuite le corps féminin pouvait apporter de la nourriture à ce bébé qui se formait dans son sein. Et on continue de le dire d'ailleurs, quand on dit aux enfants que c'est papa,
papa met la graine.
Alors la première des conséquences, c'est que les femmes ont été considérées comme un objet de première nécessité. Et il fallait que les hommes s'approprient une femme s'ils voulaient avoir des enfants. Du coup, les hommes ont échangé les femmes entre eux. Un homme dit à un autre, appartenant à un autre groupe, « Je te donne ma sœur et tu me donnes la tienne ». La deuxième conséquence, c'est que les femmes, elles ont été contraintes pratiquement à ne faire que ça. Et cela sans leur demander leur avis. La troisième est que, pour les maintenir dans cette situation, on a utilisé des modes d'action qui ont toujours cours d'ailleurs dans le monde. Elles ne pouvaient pas disposer librement d'elles-mêmes, elles ne pouvaient pas choisir leur mari par exemple, elles ne pouvaient pas décider du nombre d'enfants qu'elles auraient. Elles n'ont pas eu accès au savoir. Pourquoi? Parce que le savoir ouvre à l'esprit critique et qu'il permet l'émancipation. Et ça, ça continue dans une grande partie du monde. Et enfin, tout ce qui se rattache aux activités qui leur ont été dévolues, domestique et de l'ordre de l'intime, a été dévalorisé, méprisé et considéré avec condescendance. Et c'est tout cela qui entre en ligne de compte avec la notion de hiérarchie. Une règle a été créée par les humains qui fait que les hommes se sont considérés comme supérieurs aux femmes, parce qu'ils les ont traités comme des simples corps, comme des ustensiles, pour pouvoir eux-mêmes se reproduire. Et donc les tâches aménagères ne sont pas a priori le lot des femmes. Les hommes peuvent les faire tout aussi bien, sauf qu'elles ont été attribuées aux femmes. Et comme elles sont attribuées aux femmes, et que les femmes sont considérées comme inférieures, les tâches féminines sont dévalorisées.
Françoise Héritier nous a quittés mercredi dernier, le 15 novembre, le jour de ses 84 ans. Nous l'aimions beaucoup au petit bateau où elle venait volontiers. C'était toujours un plaisir grâce à sa disponibilité, sa simplicité, sa chaleur humaine, son humour, son intelligence. Au petit bateau, des auditeurs posent des questions et nous, nous trouvons des savants pour leur répondre. Et nous passons toujours de la poule à l'ânesse.
Je m'appelle Lionel, j'ai 33 ans et je voulais savoir si on a le droit d'inventer de nouvelles prises au judo. Merci.
Ah tiens, de nouvelles prises au judo, demande Lionel. Frédéric Lecanu, vous êtes un ancien judoka de l'équipe de France et maintenant vous êtes conseiller technique de judo auprès de la Fédération française.
Ah, c'est une bonne question. Alors, est-ce qu'on peut inventer des techniques? Finalement, c'est quoi une technique de judo? Eh bien, les techniques sont répertoriées. On a un répertoire de techniques qui sont existantes. Mais la manière de pratiquer le judo appartient à chacun. Je vous donne un exemple. Loïc Pietri, qui est champion du monde, fait très bien Ippon Soenage, qui a un mouvement d'épaule. Mais sa manière à lui est très, on va dire, très exotique, hein, elle lui appartient, voilà, c'est sa spécificité, donc il l'a fait de manière tout à fait inhabituelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire des techniques de judo qui sont répertoriées, mais en ayant beaucoup de créativité, il faut juste respecter quelques points fondamentaux.
Là, vous avez dit un nom pour ce mouvement d'épaule, c'est...
Ippon Soenage, c'est un mouvement d'épaule.
En fait, combien il y en a?
En fait, il y a des grandes familles. Il y a les familles donc des techniques d'épaule, des techniques de jambes, des techniques de hanches, donc qui sont répertoriées. Et ensuite, c'est vrai que ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'on peut être hyper créatif dans la manière de pratiquer cette technique. La théorie est importante, mais après, la créativité est importante aussi. Ceci étant dit, les choses qui sont immuables dans le judo, ce sont les principes fondamentaux du judo, à savoir les déséquilibres. C'est-à-dire que le judo est un sport de déséquilibre. On doit créer le déséquilibre chez le partenaire ou l'adversaire. Et ça, en fait, il y a des principes d'action, de réaction, d'enchaînement qui sont immuables. Mais après, ce que vous mettez dedans, eh bien, ça appartient à chacun.
C'est très intéressant, hein, la notion de force, d'équilibre, de déséquilibre, de puissance. C'est un beau garçon, Frédéric Lecanu. Beau garçon aussi, Teddy Riner, qui, il y a une semaine, a obtenu son 10e titre de champion du monde de judo.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
C'était Véronique Sanson, chanson sur ma drôle de vie, vous avez entendu? Si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Alors dites-vous bien, quand vous avez des problèmes, forcément on en a un jour ou l'autre, qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Et oui, même si vous ne le savez pas, il ou elle vous aime quand même.
Les petits bateaux sur France Inter.
Allez, le principe des petits bateaux, des questions laissées sur notre répondeur au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 6 ans et je voudrais savoir quel âge ont les huîtres quand on les mange. Merci, au revoir.
Jean Proux, directeur du centre de recherche IFREMER de la Tremblade en Charente-Maritime.
Alors Léa, quand tu manges une huître dans un restaurant, en général, elles ont entre, on va dire, 2 ans et demi et 3 ans et demi, à peu près. Mais en fin de compte, quand on travaille avec les ostréiculteurs, on raisonne jamais en termes d'âge. On parle en termes de taille. Tes parents, quand ils vont aller acheter des coquillages, ils vont demander des numéros 3 ou des numéros 4.
Oui.
Et en fin de compte, c'est les numéros 3, numéro 4, c'est la taille des huîtres. Plus le numéro est grand et plus les huîtres sont petites. Par exemple, un numéro 6, c'est des toutes petites huîtres. Puis un numéro 1 ou un numéro 0 ou double 0, ce sont des huîtres énormes. Donc, en général, les Français mangent, comme ils mangent le coquillage cru, mangent en général les numéros 3 et 4. Mais si toi, tu es une petite fille, par exemple, tu peux demander des coquillages des numéros 5. Si ton commerçant favori en a, il peut t'offrir des numéros 5 qui vont être des huîtres qui vont faire à peu près 4-5 cm de long et puis à peu près 30 grammes. Par contre, ton papa et ta maman vont manger des huîtres qui font 70 grammes à peu près et qui font 6 à 7 cm de long.
Alors, elles sont plus grosses parce qu'elles sont plus vieilles ou elles sont plus grosses parce que c'est une espèce qui est comme ça plus...
Elles sont plus grosses parce qu'elles sont plus vieilles, effectivement. Hein. Les huîtres grandissent. Après un an, elles font à peu près 2 cm. Et puis après 2 ans, on va dire 5 cm. Et au bout de 3 ans, elles font à peu près la taille à laquelle on peut les manger. Mais l'ostréiculteur, lui, il y a certaines huîtres, s'il en a trop, il va les mettre dans des endroits qui sont un peu plus hauts sur l'estran, c'est-à-dire là où il y a le balancement des marées. Et donc les huîtres vont moins pousser. Donc après, il va retrier les huîtres. C'est ce qu'on appelle le travail de cabane. Hein, c'est-à-dire dans les cabanes ostréicoles, c'est souvent le travail des femmes. Et ces femmes-là vont trier les huîtres par classe de taille. Elles vont mettre les petites avec les petites, les moyennes avec les moyennes et les grosses avec les grosses. De telle manière qu'au bout de 3 ans, eh bien, quand l'ostréiculteur va vendre son produit chez un poissonnier, les huîtres vont tous avoir la même taille. Hein. Bien vu, il suffit de regarder dans les commerçants. Dans les huîtres, toutes les huîtres à peu près ont la même taille.
Jean Proux, une huître, donc si on la laisse, elle peut vivre jusqu'à quel âge ?
Peut-être une dizaine d'années.
Tant que ça?
À peu près, oui. À ce moment-là, oui, ce sont des grosses huîtres. Hein, elles peuvent être assez grosses. Hein.
On en trouve des énormes, effectivement, pas chez les autres agriculteurs, mais si on va se baigner quelques fois sur les rochers, on en trouve un petit peu.
Oui, alors il faut vraiment que ce soit des grandes marées, parce que comme il y a quand même beaucoup de gens qui pêchent les coquillages, des grosses, il n'en reste plus beaucoup. Il faut vraiment aller très très bas dans les grandes marées pour pouvoir peut-être en trouver, oui, mais ça peut être une dizaine d'années. Alors ce que font aussi les ostréiculteurs, qui est intéressant, c'est que ils font une opération, ce qu'on appelle corser l'huître. C'est-à-dire que si vous laissez une huître pousser, par exemple, 2 ans en la laissant tranquille, elle va être superbe, elle va pousser très très vite. Donc en 2 ans, vous aurez une huître à peu près qui peut être mangée. Le problème, c'est que la coquille sera très fragile. Donc quand vous allez l'ouvrir dans votre cuisine, vous allez casser la coquille. Ça ne sera pas présentable, parce qu'en France, on aime bien manger des huîtres. C'est un beau plateau de fruits de mer, il faut que ça soit présentable. On ne mange pas n'importe comment. Une huître doit être bien ouverte, elle ne doit pas avoir de vase dessus et doit être nettoyée pour que ça soit quelque chose de bon, mais de beau aussi à manger. Et donc l'huître, il faut qu'elle soit un petit peu corsée pour que la coquille soit dure et qu'on puisse l'ouvrir facilement. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, les ostréiculteurs se débrouillent pour avoir des huîtres qui ont plutôt 3 ans que 2 ans, parce que 2 ans, c'est un peu trop fragile.
Quand vous dites corser, Jean Proux, ça veut dire attendre que la coquille se solidifie. On ne lui donne pas des produits pour qu'elle ait une coquille plus dure.
Corser, effectivement, c'est attendre, mais ce n'est pas que attendre. En fin de compte, il faut casser un petit peu la coquille régulièrement. Donc comme les huîtres sont élevées dans des poches en plastique, on brasse un petit peu la poche, telle manière que la coquille qui vient de se former est cassée et que l'huître prenne de l'épaisseur, si vous voulez, plutôt que de la longueur.
C'est un peu barbare, Jean Proux, mais c'est tellement bon. À propos de mer, avez-vous entendu sur France Inter, au tout petit matin, jeudi dernier, à propos de la Transat Jacques Vabre, les pauvres Lionel de Monchois et Bernard Stone ont dématé. Et alors Sylvie Vian, la directrice de la course, commentait l'événement et disait « Le mât s'est cassé et est tombé ». Tout par terre. Pour un bateau, c'est cocasse.
Bonjour, je m'appelle Eugénie, j'ai 5 ans et demi. Et je voudrais savoir comment on fait pour reconnaître un vrai diamant et un faux diamant quand ils sont à côté. Au revoir, merci.
Bonsoir Eugénie. Je ne savais même pas qu'il y avait des faux diamants. Patrick Voileau, vous êtes spécialiste des pierres précieuses, mais bien sûr qu'il doit y en avoir, elle a raison.
Alors, il faut... Bonjour Eugénie. Il faut séparer les pierres synthétiques des imitations. C'est-à-dire, si vous prenez un diamant synthétique, c'est-à-dire, quand je dis synthétique, c'est qu'il a été fabriqué par l'homme et c'est la même matière que le diamant, c'est-à-dire du carbone pur. Bon, c'était très compliqué et très long à fabriquer, à mettre au point, parce que il y a des températures et pressions qui sont très importantes. Et entre le synthétique et le diamant naturel, à l'œil nu, c'est très difficile. C'est quasiment impossible. Même les appareils, on a des appareils, parce que vous savez, le diamant, vous ne savez sûrement pas d'ailleurs, le diamant a une conductivité de la chaleur particulière et on a des appareils qui permettent de calculer, comme un stylo, la conductivité et on voit si c'est un vrai diamant ou une imitation.
Donc, vous avez une machine, donc c'est pas une histoire d'esthétique, c'est une histoire de physique, en fait.
Tout à fait. Entre un diamant synthétique et un vrai diamant. Par contre, pour les imitations, on peut voir la différence.
Les imitations, c'est du verre, en fait.
Alors non, ça peut être du verre, ça peut être de la topaze blanche, ça peut être du quartz, ça peut être...
une autre pierre, quoi.
De l'oxyde de zirconium, qui est une imitation du diamant. Et alors là, effectivement, quand on prend deux pierres, surtout sur une taille brillante, c'est une taille qui a été étudiée spécialement, lorsque le rayon rentre par une face, il ressort par la même face. Tous les rayons, en fonction de l'indice de réfraction de la pierre, tous les rayons se reflètent sur les faces comme sur des miroirs. Et ça ressort par la même face. Donc, si vous regardez deux pierres blanches, dont un diamant et un faux, en vous mettant légèrement en biais par rapport à la table de la pierre, vous voyez sur les pierres qui n'ont pas le même indice de réfraction que le diamant, qui ont un indice inférieur, un triangle noir. Ce triangle noir est l'endroit où le rayon de la lumière est sorti de la pierre. Parce que quand l'indice de réfraction est inférieur, il ne ressort pas par la même face.
Quand vous dites la table de la pierre, Patrick Voileau, c'est la partie plate.
C'est la surface qui est la plus haute de la pierre. Il y a la table, la couronne, le rondi, c'est la culasse.
D'accord.
Qui est en dessous. Alors la table, c'est vraiment la partie la plus large et la plus plate qui est au-dessus de la pierre. La culasse, c'est la partie pointue qui est en dessous, qui généralement est vers le bas dans la bague, vers le doigt.
Quelle merveille les pierres. C'est beau aussi la taille des pierres. Marjorie et Pierre-Yves de Rolin, qui sont en train de se fiancer en régie, me disent que le plus beau diamant du monde a été vendu cette semaine, 34 millions de dollars, et il fait 404 carats. Non, vous vous rendez pas compte, moi non plus, mais enfin quand même, on imagine que ça fait beaucoup.
Hear me now, life gets unpredictable. Ooh, I swear bigger to go, and that's the better I should. Cause we are trained for the cause. I'm coming for you, home run, yeah, I'm gunning for you. Train. Yeah, we are trained for the cause.
Eclipse. qu'avez-vous pensé de l'orchestre? Pas mal, hein? C'est lui qui fait tout, tous les instruments, avec sa bouche. Faut le voir pour le croire. Enfin, si je vous le dis, ça suffit. Si vous voulez le voir quand même, Eclipse, ça s'écrit avec un K.
Bonjour, je m'appelle Arthur et je voudrais savoir si nous avons des devoirs envers les animaux. Merci beaucoup de me répondre et au revoir.
Bonsoir Arthur. Vous me disiez à l'instant, Brice Lefaux, hors antenne, que vous aimiez particulièrement cette question d'Arthur. Vous êtes docteur vétérinaire et directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Pourquoi elle vous plaît tant que ça, cette question?
Elle me plaît parce que c'est savoir est-ce que l'homme a des droits sur les animaux. Et le corollaire de ça, c'est est-ce qu'il a des devoirs. Et je pense qu'il faut d'abord regarder les devoirs qu'il a sur les animaux avant de regarder les droits qu'il a. Il y a deux façons de voir. La première, qui vient du fait qu'on a domestiqué des animaux pour s'en servir. Donc, au profit de l'homme, on va élever des vaches pour avoir du lait. On va élever des moutons pour avoir de la laine. On va élever des chiens qui vont garder les moutons pour pouvoir éviter les prédateurs des moutons. On va ensuite élever des petits chiens qu'on va garder à la maison parce qu'ils nous tiennent compagnie. Donc, tous ces animaux sont au profit de l'homme. Et ces animaux qu'on appelle domestiques, ça fait très longtemps que nous les avons dans nos maisons ou dans nos
dans autour nos écuries, de chez
nous.
Voilà. Oui.
Bah, nous avons un devoir majeur, c'est qu'on doit assurer leur bien-être. C'est-à-dire, ils nous rendent service, mais nous, le principal devoir, c'est qu'on doit les nourrir, on doit faire en sorte qu'ils aillent bien, on ne doit pas les maltraiter. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent à la plupart des gens qui ont déjà vécu avec des animaux. C'est-à-dire que c'est naturel, lorsque enfant, j'allais aider à la ferme, pas la mienne, mais celle des voisins, et ben, dans ces cas-là, on voyait très bien que l'agriculteur et nous-mêmes, on se mettait en position de faire attention aux animaux. Donc quand on fait attention aux animaux, et c'est le principe même aussi du vétérinaire qui veut rendre service à l'animal, donc on a forcément des devoirs. Et ces devoirs sont obligatoires. Et il y a une autre façon de voir les choses par rapport aux devoirs, et là je suis un peu plus global, je regarde toute la Terre entière. Et on sait qu'aujourd'hui, des espèces sont en train de disparaître de la Terre. C'est une disparition qui est majeure. Il y a beaucoup d'espèces qui sont en train de disparaître de la Terre du fait de l'activité de l'homme, soit directe, par le braconnage, le trafic d'animaux qui ne devraient pas être chez les gens, par l'agriculture, le fait qu'on va faire de la déforestation, ou par un effet indirect, le réchauffement climatique lié à l'activité de nos voitures, de nos transports, de nos recharges de portables, etc. Et par rapport à ces espèces qui n'ont rien demandé à personne, qui sont dans le milieu naturel, on a un devoir qui est de faire en sorte de les protéger pour contrebalancer en fait ce que nous provoquons. Donc on est en train de déséquilibrer aujourd'hui l'équilibre planétaire, donc on a le devoir de rééquilibrer. C'est comme ça que je perçois moi ma vie personnelle, c'est vraiment dans cette notion de rééquilibrer le déséquilibre qu'on a engendré. Alors c'est un peu compliqué, on n'aura pas le temps peut-être d'aller un peu plus loin, mais ça veut dire aussi que si demain on veut que nos enfants puissent voir des espèces animales diversifiées, donc de la biodiversité, on est obligé de les protéger aujourd'hui. Donc protéger la biodiversité aujourd'hui, c'est permettre à nos enfants de voir aussi la biodiversité, donc en fait d'assurer le futur de l'espèce humaine. L'homme est un animal, on se respecte les uns les autres en tant qu'être humain, il faut respecter de la même manière les autres êtres vivants que sont les animaux.
Pierre-Yves de Rolin, Jean-Baptiste Audibert, Marjorie de Voucou, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine par franceinter.fr. Venez donc faire un tour sur le site des petits bateaux. Je vous laisse avec Denis Chézou pour La Tulu, mon petit loup.